J'aimerais commencer le sermon directement par quelques écritures dans Jean 15. Je vous invite à vous reporter à Jean 15, le verset 12. C'était la nuit où Jésus fut trahi. Les paroles qu'il a prononcées ici sont très importantes, car je pense que nous reconnaissons tous que si nous n'avions que très peu de temps, quelques heures pour partager les choses qui sont importantes pour nous, avec les êtres chers que nous aimons beaucoup et quelques amis, nous utiliserions ce temps très précieusement. Ces paroles sont donc très, très importantes pour nous. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous savez, l'Ancien Testament nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Et Jésus dit, comme je vous ai aimé, parce qu'il nous a certainement aimés bien plus qu'aucun de nous n'aime son prochain. Il a donné sa vie, littéralement, versé son sang, mais pas seulement ça. Il donna toute sa vie, renonça à sa gloire, il s'est dépouillé lui-même pour devenir un être humain. Et il dit, « Nous devons nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. » Au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Jésus ajoute au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Verset 17. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Il poursuit au verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Je me souviens d'une fois où un dirigeant de l'Église, avant que l'Église ne sombre dans l'apostasie, disait, « Je n'aime pas que le monde pense du mal de moi. Je n'aime pas qu'on me considère comme faisant partie d'une secte. » Cela aurait dû être un grand signal d'alarme, un drapeau rouge pour nous tous, parce que Jésus a dit, « Le monde va vous haïr. Si vous faites ce que vous devez faire, le monde ne vous aimera pas. » Il est intéressant de noter que lors de l'étude biblique de ce matin, nos messieurs ont parlé du fait que nous ne pouvons pas toujours plaire à ceux qui nous entourent. Nous essayons d'être gentils, nous essayons de montrer de l'amour et de la sollicitude. Mais il y a des moments où nous devons nous tenir debout, nous faire entendre et accepter n'importe quelle punition, qu'il s'agisse de la perte d'un emploi, d'un échec en classe ou n'importe quoi d'autre, parce que le monde ne nous aimera pas. Et plus nous approchons de la fin, de plus en plus le monde va nous haïr. Jean 15, versets 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Ainsi, Jésus fut sans équivoque en ce soir de la Pâque. Nous ne sommes pas du monde, et le monde sera en désaccord avec nous. Nous avons le proverbe dans les Écritures qui dit que lorsque nos voix plaisent à Dieu, même nos ennemis sont en paix avec nous, ou quelque chose comme cela. Et c'est vrai, nous devrions pouvoir nous entendre avec la plupart des gens de notre quartier, de notre famille, etc. Mais il y a des moments, et il y aura des moments, où nous ne pourrons tout simplement pas aller de pair avec ce que fait le monde. Le monde va être en désaccord avec nous, et il va parfois forcer les choses. Reportons-nous à Jean 17. Nous lisons la prière qu'il fit cette nuit-là alors qu'il était dans le jardin et avant d'être arrêté et crucifié le lendemain matin. Mais il est très important que nous voyions cela. Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et il priait son Père pour ses disciples dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Nous devons être un en pensée, en esprit. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Le monde a crucifié ou assassiné, ou martyrisé, je ne devrais pas dire crucifié chacun d'entre eux, mais le monde a certainement crucifié le Christ. Mais le monde les a tous martyrisés, à l'exception de Jean, ou du moins d'après ce que nous disent les archives, pour autant que nous puissions comprendre. Ils étaient haïs, et même Jean était haï, mais il a évité le martyr. Dieu a permis que cela se produise. Verset 14. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Ainsi, tout comme le Christ n'était pas du monde, nous ne devons pas non plus être du monde. Verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Nous devons donc vivre dans ce monde. Un monde qui est guidé et dirigé par Satan le diable, qui dirige le cours de ce monde. Et pourtant, nous devons être séparés d'une manière ou d'une autre. Nous devons vivre dans le monde et être séparés du monde. Verset 16. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les ou mets-les à part par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quand tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Maintenant, avec ces informations, nous devons nous poser la question, comment comprendre ces versets dans le contexte d'aujourd'hui? Je me souviens qu'en 1965, alors que j'étais à l'ambassadeur collège, nous avions des études bibliques. Il semble que chaque année, peut-être même plus, je n'en suis pas certain, mais nous en avions une intitulée « Qu'est-ce que la mondanité? » L'idée de ce qu'est la mondanité a changé au fil des ans. À l'époque, la perception du monde religieux envers la mondanité était très négative. On ne pouvait pas danser, sauf si on était catholique. Les catholiques pouvaient danser, ils pouvaient boire, mais un bon baptiste ne buvait jamais d'alcool en public. Et à notre grande honte, nous avions des panneaux lors de la fête. Ma toute première fête, qui a eu lieu en 1964, avant que je n'aille à l'ambassadeur collège, c'était incroyable parce que le nom de l'église était Radio Church of God à l'époque, plus tard changé en Universel, et il y avait des panneaux partout. « Bienvenue à la radio Church of God. Nous vendons de l'alcool ici. » Et en tant que jeunes, nous pensions « C'est cool. Nous sommes cool. » C'est à notre grande honte, car nous avions cette réputation. Néanmoins, c'était tellement radical par rapport à ce que le monde pensait. Si vous étiez religieux, sauf encore une fois si vous étiez catholique, vous ne buviez tout simplement pas d'alcool en public. Pourtant, certaines personnes allaient jusqu'à l'extrême et dépassaient les bornes. Néanmoins, les gens pensaient que c'était une chose merveilleuse, alors que ce ne l'était pas. Même au lac des Ozarks, je ne me souviens pas exactement de l'année, mais après être entré dans l'église du Dieu vivant, à l'arrière d'un magasin, on pouvait lire quelque chose comme « Bienvenue à l'église universelle de Dieu, nous vendons de la bière ici » ou quelque chose de ce genre. Notre réputation perdurait. Danser était considéré comme une activité inappropriée. Jouer aux cartes, pour certaines personnes très religieuses, était vu comme une activité mondaine. Bien sûr, il y a toujours eu des gens qui ont eu un certain style vestimentaire, les Amish, les Mennonites et d'autres, qui s'habillent différemment, qui n'utilisent peut-être pas d'automobile, mais qui se déplacent à cheval et en calèche. Ils considèrent d'autres choses comme des mondanités. La définition de mondanité, selon la perspective du monde, a évolué au fil des ans. Le titre de ce sermon est « Qu'est-ce que la mondanité? » Qu'est-ce que la mondanité? Mon but, et je vous prie d'écouter attentivement le but, est de vous inciter à réfléchir aux raisons pour lesquelles vous faites les choses que vous faites. Je ne suis pas ici pour vous donner une longue liste de ce qui constitue la mondanité. J'ai trouvé l'étude biblique de ce matin très bonne, dans le sens où elle soulignait que Dieu s'attend à ce que nous fassions preuve de jugement. Les gens ont toujours eu tendance à vouloir que l'Église donne une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Nous le voyons avec les pharisiens à l'époque du Christ. Il y avait des limites très strictes sur tout ce que l'on pouvait faire. Mais ce qui a été dit ce matin, c'est que nous devons porter des jugements justes. Il y a des choses que vous et moi devons décider. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une liste de choses à faire et à ne pas faire, car cette liste ne cesserait de s'allonger au fil du temps. Dieu veut que nous soyons capables de porter des jugements justes. Il veut que vous et moi apprenions ces choses. Mon but est donc de vous inciter à réfléchir aux raisons pour lesquelles vous faites les choses que vous faites. Certaines choses sont clairement du monde. Elles sont évidentes. Par exemple, nous ne fêtons pas Noël et le Nouvel An. Je pense que cela s'applique à la plupart des personnes ici présentes. Il se peut que quelques-uns ne soient pas membres de l'Église et accompagnent un conjoint ou une conjointe. Il peut s'agir d'un cas comme cela, et peut-être que la personne fête Noël ou le Nouvel An, peu importe. Mais nous ne le faisons pas, parce que nous savons que ces fêtes proviennent de sources païennes, et nous reconnaissons qu'il y a d'autres jours que nous célébrons. C'est une évidence. Nous ne considérons pas le dimanche comme le jour du sabbat, alors que la plupart des pays qui se disent chrétiens considèrent le dimanche comme un sabbat ou un jour de repos. Ils ne l'appellent peut-être pas le sabbat, mais c'est leur jour de culte, généralement à quelques heures le matin. Nous mangeons différemment du monde en ce qui concerne les viandes. En ce qui a trait à la consommation alimentaire autre que la viande, nous mangeons probablement beaucoup trop, comme le fait le monde, mais c'est une autre histoire. Nous ne proférons pas d'injures. Du moins, nous ne devrions pas le faire. Je ne suis pas naïf au point de penser que personne ici ne profère de grossièreté. En fait, je sais que certains, quelques-uns, y ont recours. Certains de nos jeunes l'utilisent, même sur Internet, les médias sociaux, Snapchat, ou tout ce que vous utilisez. Il faut y réfléchir. Vous savez, il y a quelques années, je pêchais sur la glace au Canada. Nous étions sur un lac magnifique. Nous avions fait des trous dans la glace et nous pêchions. Il y avait d'autres personnes sur la glace. C'était un lac, pas un grand lac comme le lac Huron ou un lac similaire. C'était un lac plus petit, mais quand même de taille convenable. Quand on est sur un lac, on peut entendre des voix de très loin. Et il y avait des gens à 30 ou 40 mètres de nous, ce n'était pas si loin. Je n'avais jamais entendu ce genre de blasphème. Je ne sais pas si j'en avais déjà entendu autant. Ils ne savaient pas comment faire une phrase sans utiliser un certain mot. Je ne donnerai même pas d'indice à ce sujet. Mais vous l'avez probablement compris. Il savait comment conjuguer ce mot d'une manière que je ne soupçonnais même pas. Il n'utilisait pas une phrase sans ce mot. Et c'était assez dégoûtant d'être là, dans un endroit si magnifique. Mais vous savez, ce que j'ai réalisé au fil du temps, et je dis cela pour nos jeunes, et lorsque nous sommes jeunes, nous pensons que les jurons font partie de notre passage à l'âge adulte. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, alors que je n'étais pas encore dans l'Église, j'allais à l'Église protestante. Mais je n'étais pas membre de l'Église de Dieu. Nous essayions d'aligner le plus grand nombre possible de mots blasphématoires, et certaines personnes étaient vraiment douées pour cela. Tu es un wabalalalalala ou quoi que ce soit de ce genre. Et cela durait aussi longtemps que possible. Nous pensions que c'était vraiment génial. Mais vous savez ce qu'est un blasphème? C'est un vocabulaire de bas de gamme. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui sait très bien utiliser la langue anglaise ou toute autre langue? Ils peuvent être incroyablement colorés. Il y a un individu, John Kennedy, en Louisiane. Il a une façon de dire les choses qui est très colorée. Mais je ne me souviens pas qu'il ait prononcé des vulgarités. Il y avait un type au Canada, Rex Murphy, qui est décédé depuis. J'ai toujours aimé l'écouter parce qu'il était intelligent. Il parlait avec passion et il savait utiliser la langue de Shakespeare. Mais les gens qui ne sont pas aussi vifs d'esprit se contentent de mots profanes qui, pour une raison ou une autre, font rire les gens. Au bout d'un moment, ils sont banalisés. Mais nous n'utilisons pas de mots grossiers. Cela devrait aller de soi. C'est de la mondanité. Nous ne regardons pas de pornographie. Du moins, nous ne devrions pas le faire. Je dois dire ici que je comprends ce que c'est d'être jeune. Et je suis très reconnaissant de ne pas avoir eu les mêmes tentations en ce qui concerne la pornographie quand j'étais jeune. Elle était à peine disponible. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est un rite de passage. Même pour les filles, comme en témoigne une jeune fille de 14 ans, elle a déclaré qu'à l'âge de 10 ans, c'était la première fois qu'elle voyait de la pornographie. Elle a ajouté que c'était un rite de passage pour ses amis. Et la pornographie ne concerne plus seulement les garçons, mais aussi les filles. Nous pourrions nous demander, mais qu'est-ce qu'il y a de si mauvais à cela? Tout d'abord, cela viole les lois de Dieu. Dieu a dit, tu ne convoiteras point. Mais en regardant de la pornographie, à quoi pensez-vous? Tu ne commettras point d'adultère. C'est bien ce que dit Dieu dans Exode 20, verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Et qu'a dit Jésus? Reportons-nous à Matthieu 5, versets 27 à 29. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras point l'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, d'être brûlé. Il ne parle pas d'arracher littéralement l'œil, car cela ne résoudra pas le problème. Mais ce qui résoudra le problème, c'est d'ôter la tentation, quelle qu'elle soit, pour que vous ne puissiez pas la voir. L'une des choses que nous constatons, c'est que les gens se laissent parfois entraîner dans cette voie et que cela crée une véritable dépendance, du moins pour certaines personnes. Et ce qui se passe, c'est que cela pervertit notre pensée de sorte qu'une relation normale entre un homme et une femme n'est plus excitante. Pour satisfaire les désirs charnels, certains s'engagent dans des extrêmes de plus en plus poussés, y compris en ayant recours à diverses formes de sadomasochisme. Cela détruit votre esprit concernant la sainteté de l'institution du mariage que Dieu nous a donné. Dieu veut donc nous protéger. Quand je dis cela aux jeunes, et vraiment pas seulement aux jeunes, parce que ce problème va bien au-delà des jeunes, quoi que ce soit, ne vous y engagez pas. Et si vous y êtes, parlez-en à votre ministre. Faites ce que vous avez à faire, mais sortez-en rapidement, car cela vous fera du tort à long terme. Une autre chose à ce sujet. Pourquoi cela existe-t-il? À cause de l'argent. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Les gens gagnent de l'argent grâce à cela, et ils commercialisent cela sur le dos des personnes innocentes. Je dis innocentes. Elles ne sont pas si innocentes après avoir pris cette direction. Mais faites attention à cela, c'est manifestement une activité mondaine. Nous ne participons pas à la politique, nous ne votons pas, nous ne nous engageons pas dans l'armée, c'est un autre sujet qui a été abordé ce matin. Il y a plusieurs autres catégories, et il y a des moments où l'on pourrait signer une pétition. Je sais que nous avons connu des situations où les gens pensaient « Oh, je ne peux pas signer une pétition ». Je me souviens qu'à l'ambassadeur collège, nous avions du lait cru certifié provenant d'une laiterie d'Altadena. Le gouvernement essayait toujours de les mettre hors circuit. Personne n'a jamais été malade à cause de ce lait, mais ils essayaient de forcer la fermeture de ce commerce. Je me souviens que nous avions fait circuler une pétition à l'ambassadeur collège pour dire « Nous aimerions garder ce lait ». Et c'est ce qu'ils ont fait pendant de nombreuses années. La laiterie a finalement mis fin à ses activités. Je ne sais plus si c'était il y a 10 ou 20 ans, mais le produit est resté disponible pendant très longtemps. Personne n'a jamais été malade. Il y avait un lobby contre eux qui ont fini par réussir. Mais nous avions donc signé une pétition simplement pour dire « Nous aimerions garder ce lait ». Il faut donc faire preuve de discernement dans ce genre de situation. Nous n'essayons pas de changer le monde, de faire du monde de Satan le monde de Dieu. Mais si des choses nous touchent directement, nous pouvons poser certains gestes. Toutefois, il y a d'autres choses qui ne sont pas aussi claires. Il n'y a pas de commandement direct contre certaines actions. Elles doivent être discernées à partir des principes bibliques. En outre, certaines déclarations de l'Écriture peuvent être interprétées différemment. Reportons-nous à 1 Timothée chapitre 2 et remarquons une déclaration biblique claire que nous pourrions qualifier de mondanité. Il ne mentionne pas le mot mondanité, mais il s'agit bien de cela. 1 Timothée 2, versets 8 à 10. Il nous faut maintenant discerner le sens des mots. Verset 8, « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. » Il y a beaucoup d'interprétations ou de compréhensions de la signification de ces mots. Le mot « modestie » est un mot merveilleux, mais les gens l'interprètent très différemment, n'est-ce pas? Ce qui est modeste pour vous ne l'est peut-être pas pour une autre personne. Mais sur quoi l'accent est-il mis ici? Eh bien, il est question de ne pas avoir des cheveux tressés, ni de l'or, ni des perles, ni de vêtements coûteux. Certains d'entre vous portent probablement de l'or à ce moment même. C'est mon cas, d'accord? Ma femme aussi. J'imagine que la plupart des adultes ici présents, surtout s'ils sont mariés, portent de l'or. Il y a peut-être d'autres choses que vous portez qui sont en or, et certains d'entre vous portent probablement des perles, de vraies perles. Pas des fausses. Mais si elles sont fausses, ce n'est pas grave non plus. Que veut-il dire par cela? De quoi parle-t-il quand il dit que les femmes se parent de bonnes œuvres? Il met en évidence le contraste entre la quête de la reconnaissance extérieure et la réalisation de bonnes œuvres. Bref, le fait d'avoir cette beauté intérieure que Dieu veut voir en chacun de nous. Pourtant, dans notre monde actuel, l'accent est mis sur la beauté extérieure. L'une des choses que nous savons aujourd'hui, c'est que les médias sociaux sont préjudiciables aux jeunes filles, ainsi qu'aux garçons, mais pour des raisons différentes. Pour les filles qui ont 12, 13 ou 14 ans, l'accent est mis sur la séduction. Il existe même ce que l'on appelle des photos d'autopromotion alléchante, avec des filtres qui peuvent vous faire paraître mieux que vous ne l'êtes vraiment. Ainsi, toutes les jeunes filles adolescentes utilisent ces filtres pour présenter des images alléchantes d'elles-mêmes. Elles racontent tout ce qu'elles font et donnent l'impression que leur vie est merveilleuse. Ainsi, en tant que jeune fille, vous regardez toutes ces autres personnes, et oui, Vous utilisez aussi ces filtres. Mais lorsque vous vous regardez dans le miroir, sans filtre, votre image de vous-même, c'est-à-dire votre estime de soi, bien que je n'aime pas le mot, se dégrade. Et vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur des autres. C'est ce qui arrive à nos filles, à nos petites filles, à nos nièces. C'est très dommageable pour elles. Il faut donc se poser la question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je laisse mes enfants se laisser entraîner là-dedans? À l'âge de 2 ou 3 ans, les parents leur donnent le téléphone et ils commencent à l'explorer et ils apprennent à s'en servir. Les parents se disent « Oh, comme mon enfant est intelligent! » Il sait comment bouger son pouce. Et puis, comment l'enlever une fois qu'il a commencé? Il continue et nous nous réveillons un jour en découvrant que nos filles sont anxieuses, déprimées et souffrent de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Ce qui est déjà assez difficile dans la vie sans toutes ces choses. Nos garçons et nos filles s'adonnent à la pornographie dans certains cas ou gaspillent leur vie en jouant à des jeux vidéo. Comme l'a souligné ce matin, je crois que c'est M. McNair, vous savez, ce n'est pas que ce soit mal de jouer à un jeu vidéo, mais il faut se poser la question, que faites-vous de votre vie? Est-ce que vous la gaspillez avec cela? Il y a d'autres façons de gaspiller sa vie aussi. Mais qu'est-ce au juste que la modestie? Je vous pose cette question car j'espère pouvoir vous faire tous réfléchir, surtout vous les femmes. Qu'est-ce que la modestie? Est-ce que je m'habille modestement? Peut-être vous pourriez regarder un peu autour de vous dans l'église et voir ce que les autres portent. Bien sûr, c'est une arme à double tranchant, car il ne faut pas nécessairement suivre les autres. Mais je pense que si vous suivez les femmes de ministres, dans la plupart des cas, et les femmes des diacres, j'espère qu'elles s'habillent modestement. Et nous devons nous habiller modestement en fonction de notre âge. Une fille de 10 ans portera quelque chose de très différent d'une fille de 16 ans. Mais quel est l'objectif de votre tenue? Essayez-vous d'exhiber votre corps d'une manière ou d'une autre? Ou pensez-vous à être belle sans vendre votre corps? Car le type de personne que vous attirez n'est pas nécessairement celui avec lequel vous voudriez construire votre vie. Vous savez, notre personnalité est très importante. Notre caractère est aussi important. Je me souviens, je vous ai déjà raconté cette histoire, j'étais à Wisconsin Dells pour la fête. J'étais assis dans un très bon restaurant et qu'une jeune fille était assise à côté de moi. Je pense qu'elle avait environ, je ne sais pas, 12, 13 ou 14 ans. C'était une soirée très agréable parce qu'elle savait comment se comporter. Elle s'habillait bien, elle savait parler, elle pouvait vous regarder dans les yeux. Après être revenu de la fête dans l'église que je dirigeais dans le Michigan, j'ai abordé cet incident. Et l'un des membres de l'église est venu me voir et m'a dit « Je peux vous dire qui c'était. » J'ai dit « D'accord. » Et il l'a nommée. Elle n'était pas habillée de manière inappropriée, elle était habillée modestement. Mais c'était son caractère, sa façon de se comporter, qui la rendait si belle et si attrayante en tant que jeune femme. Mais qu'est-ce que la modestie? J'aimerais que vous y réfléchissiez. Comment comprenons-nous la partie concernant les cheveux tressés, l'or, les perles et les vêtements coûteux? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que toutes ces choses sont mauvaises? Ou si c'est l'emphase que nous y mettons. J'espère que vous y réfléchirez. Un autre exemple est celui de la danse. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de mal à danser, nous allons danser ce soir. Mais j'espère que notre danse ce soir ne sera pas comme dans le monde, parce qu'il y a des danses mondaines. La danse est-elle mauvaise? Bien sûr que non. Reportons-nous à Jérémie 31. Jérémie 31. Il y est question de l'époque à venir, le millénium. Jérémie 31, verset 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Il est donc dit qu'ils vont se réjouir dans la danse. Il est évident que la danse en elle-même n'est pas mondaine. Mais si nous revenons à Exode 32, Exode 32, versets 25 et 26. Exode 32, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel ». Mais remarquez au verset 6, ce qu'ils ont fait sans retenue. Verset 6, « Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. » C'est l'épisode de l'incident du veau d'or. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils se levèrent pour se divertir. Je pense qu'il est assez évident qu'une partie du divertissement consistait à danser. Remarquez le verset 19. Et comme il approchait du camp, Moïse, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. C'est la façon dont il dansait, et vous pouvez l'imaginer avec le veau d'or. En fait, il suffit d'imaginer certaines des danses que l'on peut voir dans ce monde et de placer le veau d'or au centre de la piste de danse. La façon dont les gens dansent aujourd'hui n'a pas besoin d'être décrite et je n'ai pas l'intention de le faire. Vous allez à un mariage en dehors de l'église et vous voyez une danse très sensuelle, très dépourvue de toute forme de modestie. Il ne fait aucun doute que c'est ce qui se passait parmi les enfants d'Israël. Il y a donc un type de danse approprié et un autre qui ne l'est pas. Au camp d'été, notre camp d'été pour adolescents, à titre d'exemple, nous n'avons pas de danse improvisée. Pourquoi n'y a-t-il pas de danse freestyle ou improvisée? Est-ce parce que la danse improvisée en soi est un péché? Eh bien, je pense que lorsque David a traversé les rues et dansé parce qu'on ramenait l'arche, j'imagine que c'était de la danse improvisée. La danse style libre est-elle donc mauvaise en soi? Nous n'avons jamais dit que c'était un péché. Le problème de ce type de danse, c'est qu'elle n'a pas de style. On ne sait donc jamais exactement ce que l'on va obtenir. Nous avons eu une danse ici à Charlotte il y a de nombreuses années. Je m'en souviens. Je sais qui étaient les deux hommes et je les connaissais très bien. J'ai été leur pasteur pendant un certain temps. Je ne sais pas si je l'étais à l'époque. Je l'étais probablement, je suppose. Quoi qu'il en soit, ils sont venus à la soirée dansante que nous avions organisée. L'orchestre que nous avions jouait quelque chose. C'était du stroll. Personne ne connaît ou sait comment faire du stroll aujourd'hui. C'était dans les années 50 et 60. On s'aligne et on rencontre quelqu'un au milieu, puis on se promène entre les deux lignes et on continue à faire cela. Personne ne savait quoi faire, surtout parce qu'ils étaient plus jeunes. Ils ont donc fait le ver de terre. Ils se sont mis à plat ventre et ils ont fait le ver de terre jusqu'au bout. Cela a suscité quelques rires, mais c'est ce que l'on peut obtenir. Je ne dirais pas que c'est un péché, c'est juste une sorte d'étalage grotesque de vanité personnelle, je suppose. Mais certains d'entre vous ne savent probablement pas ce qu'est le ver de terre. Il suffit de se mettre à plat ventre et d'osciller sur le sol. Je suppose qu'il faut un peu d'habileté. Je ne m'y essaierai certainement pas personnellement à mon âge. Quand j'étais plus jeune, j'aurais probablement essayé. Mais aujourd'hui, j'aurais été cloué au sol pour toujours. Mais c'est le problème avec la danse improvisée. Même lors des fêtes et d'autres occasions, il peut y avoir des gens qui ne sont pas membres de l'Église. Ils viennent avec un conjoint ou un ami, et leur façon de danser n'est pas forcément appropriée. Nous ne voulons pas devenir des policiers allant sur la piste de danse en disant « Hey, ce n'est pas approprié ici ». Il peut arriver que nous devions faire quelque chose de ce genre, mais nous ne voulons pas être dans cette position. Nous disons donc simplement « Nous ne pratiquons pas la danse improvisée ». Il existe de nombreux autres types de danse. Ce n'est pas que quelque chose soit un péché, c'est juste une question de ce qui n'est peut-être pas la meilleure approche dans notre contexte. Je sais que certaines personnes n'aiment pas cela, mais nous en avons discuté et nous savons qu'il existe de nombreux types de danse. Des danses en ligne complexes, des danses de bal, et aussi le swing. Et nous enseignons les bons pas et tout le reste, mais il est également évident que certaines choses, comme la danse improvisée, peuvent être acceptables, mais non profitables à long terme. Il était question hier soir et aujourd'hui, dans les études bibliques, d'un sermon intitulé « Est-ce correct ?» est la mauvaise question. Si vous voulez revenir en arrière et écouter ce sermon, il fut publié le 15 décembre 2017. Je pense qu'il fut donné et enregistré en septembre 2017. Mais il fut publié le 15 décembre 2017. Vous pouvez le consulter sur notre site Internet anglais. Est-ce correct est la mauvaise question. Ce que nous voulons, c'est avoir la pensée de Dieu. Permettez-moi de vous donner un exemple de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, où il donne des conseils sur quelque chose qui est acceptable, mais dans ce cas, il le déconseille. 1 Corinthiens 7, versets 25 et 26. Il parle ici de quelqu'un qui est libre de se marier. Verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Nous ne connaissons pas exactement la détresse qui régnait à ce moment-là. Il se peut que la situation fût très, très difficile, et il a pu penser, et nous savons qu'il pensait que le Christ reviendrait bientôt, mais il y avait des circonstances qui, pour une raison ou une autre, l'ont amené à donner ce conseil. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Il poursuit au verset 27. « Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici donc un cas où Paul dit qu'en raison de certaines circonstances à l'époque, il serait préférable de ne pas se marier. » Il s'agit d'une opinion de l'apôtre Paul fondée sur les circonstances. Mais il dit aussi, « Si vous vous mariez, ce n'est pas un péché. » Il y a donc des cas où une chose n'est pas un péché, mais en raison des circonstances, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Revenons à 1 Corinthiens 6, verset 6. 1 Corinthiens 6, verset 6. C'est là qu'il y avait des gens qui allaient au tribunal et intentaient des actions en justice, les uns contre les autres, un membre de l'Église contre un autre. Paul dit au verset 6, « Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. » Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Or, nous ne savons pas exactement quels étaient les différends qui les amenèrent en justice les uns contre les autres, mais dans un contexte plus large, Paul dit au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? » Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » Il ne dit certainement pas que les choses mentionnées au verset 9 et 10 sont légitimes. Il l'a bien précisé. Ensuite, Paul déclare au verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Plus loin, au verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Et il nous disait au verset 18, « Fuyez la débauche. » Mais c'est dans ce contexte, il mélange finalement beaucoup de choses. Il rappelle la loi aux gens, toutes sortes de péchés, et en particulier les péchés sexuels. Paul disait, « Certains d'entre vous étaient ainsi, mais vous avez été purifiés. Vous vous êtes repentis. » Mais ensuite, il dit au verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Il y a un principe là. Je ne sais pas pourquoi il le place dans ce contexte, mais il est très clair qu'il y a des choses qui sont légales. Il dit, « Tout m'est permis. » Il ne parlait pas des choses qu'il énumérait au verset 9 et 10. Car il avertit que vous ne serez pas dans le royaume si vous pratiquez ces choses. Reprenons le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne veux pas devenir un esclave de quoi que ce soit. Vous savez, jouer à un jeu vidéo peut être légitime. Mais si vous gaspillez votre vie à jouer à des jeux vidéo, cela peut vous conduire au péché. Il n'y a rien de mal à aller sur Internet ou sur les médias sociaux. Je pense que beaucoup de nos aînés le font pour rester en contact avec leur famille et d'autres choses de ce genre. Mais si c'est ainsi que vous passez tout votre temps et que vous négligez votre prière, votre étude ou votre famille, certaines personnes s'impliquent tellement dans les jeux vidéo pour adultes que les autres membres de leur propre famille sont négligés. Certaines de ces choses peuvent être légales, mais elles peuvent devenir un péché selon la façon dont nous les utilisons. Dans ce contexte, je voudrais que vous vous posiez les questions suivantes. Je veux que tout le monde y réfléchisse. Nous avons tous besoin de réfléchir à ces questions. Pourquoi est-ce que je m'habille comme je le fais? Quelle est ma norme en matière de modestie? Comment suis-je parvenu à cette norme? Quelles sont les influences dans ma vie qui m'amènent à conclure qu'il s'agit de modestie? Ce peut être le cas, mais ce n'est peut-être pas le cas. Pourquoi est-ce que je me coiffe comme je le fais? Comment est-ce que j'occupe mon temps? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions que nous devrions nous poser. Il est facile pour nous de penser que nous sommes ce que nous sommes. Je prends ces décisions parce que c'est moi. C'est une décision que je veux prendre. Je me rappelle une jeune femme, probablement dans la vingtaine. Elle était serveuse à Calgary. J'étais là et elle avait un piercing dans la langue, un genre de bijou, quelque chose comme cela. Et je lui ai demandé pourquoi une charmante jeune femme comme vous se ferait-elle percer la langue avec un clou? Pourquoi feriez-vous cela? Je me suis dit que si elle le faisait, c'est qu'elle voulait avoir de l'attention, alors pourquoi les décevoir? Ma femme, vous savez, elle pense différemment. Elle cherche un endroit où se cacher quand je fais ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, la jeune femme a dit, « Vous savez, j'ai toujours eu besoin de mâcher quelque chose. J'ai toujours mâché de la glace. J'aime avoir quelque chose dans la bouche tout le temps. » Je suppose qu'elle se mâchait la langue d'une manière ou d'une autre. Plus tard, elle est revenue et elle a dit, « Vous savez, Je vais probablement y renoncer plus tard. Je crois que je lui ai posé la question. Vous l'avez fait sans vous soucier de ce que faisaient les autres? Vous ne l'avez pas fait parce que quelqu'un d'autre le faisait. Vous l'avez fait toute seule? Vous avez pensé toute seule à vous planter un clou dans la langue? Elle a dit, eh bien, plus tard, je l'enlèverai probablement. Pas parce que j'ai dit cela, mais parce qu'elle se disait qu'en grandissant, elle déciderait que ce n'était pas la chose à faire. Je me souviens d'une autre serveuse plus jeune à qui j'ai posé la même question. Elle m'a répondu, « Personne ne m'a jamais posé cette question. » Et chaque fois qu'elle revenait, elle disait, « Je réfléchis à votre question. » Elle n'avait pas de réponse. Elle disait simplement, « Je n'ai pas oublié votre question. » Elle n'a jamais vraiment répondu à la question, du moins pendant le temps que nous étions là. Pourquoi faisons-nous les choses que nous faisons? Nous pensons parfois, comme cette première serveuse, que nous sommes des penseurs indépendants. Elle a dit qu'elle le ferait même si personne d'autre ne le faisait. Mais la plupart du temps, nous tous, comme me l'a dit un jour un autre jeune homme, je suis unique, comme tous mes amis. Citation véridique. Je suis unique, comme tous mes amis. En réalité, aucun d'entre nous n'est aussi individualiste que nous le pensons. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps dans un sermon, mais la plupart d'entre vous n'étiez pas là. Si nous pensons aux publicités, comme pour la maison Biltmore, cela nous rappelle une époque où les gens s'asseyaient sur leur balcon en été et regardaient les oiseaux. Il fut un temps où l'on parlait à ses voisins en marchant dans la rue. Avec un peu de nostalgie, on se rend compte que c'était vraiment une autre époque. Les gens s'asseyaient vraiment sur leur balcon dans la fraîcheur du jour, du moins dans la mesure du possible. La maison était déjà chauffée par le soleil qui tapait dessus toute la journée. Mais assis sur le balcon, il y avait une petite brise, et ils parlaient à leurs voisins. Les maris et les femmes pouvaient se parler. Mais la technologie a changé tout cela. La technologie nous a changés, vous et moi. La technologie dont je parle, c'est la télévision et l'air conditionné. Qu'est-ce que cela a fait? Elle nous a fait quitter le balcon. Elle nous a fait entrer à l'intérieur, loin de nos voisins et même des conversations correctes. Tandis que nous regardons fixement ce monstre borgne. Depuis, les choses ont encore changé. Les ordinateurs ont fait leur apparition. Et aujourd'hui, il y a encore plus avec les médias sociaux et autres choses. Tout le monde a son propre appareil. Papa est sur son ordinateur, maman est sur le sien et les enfants sont sur leur téléphone portable, en train de parler à quelqu'un d'autre. La technologie nous a changés, que cela nous plaise ou non. Est-ce que cela signifie que tout est mauvais? Je n'en sais rien, pour être honnête, j'aime bien l'air conditionné. Néanmoins, l'air conditionné et la télévision ont changé notre façon d'agir. Elles ont même changé notre architecture, parce qu'aujourd'hui, de nombreuses maisons n'ont même pas de balcon à l'entrée. Cela a changé notre façon d'agir, notre façon de penser. L'automobile nous a évidemment changé de manière inattendue. Et que dire des téléphones intelligents, qui nous ont aussi changés, et ce de manière plus négative que les technologies que je viens de mentionner. Mais il y a aussi des influences culturelles qui nous affectent. Elles modifient notre façon de nous habiller, de parler et d'agir. L'instinct moutonnier est une réalité. Même si nous aimons penser individuellement, « Oh, cela ne m'affecte pas. » La plupart d'entre nous pensent probablement que la publicité ne nous affecte pas. Mais ceux qui dépensent des millions et des milliards de dollars savent que la publicité affecte les gens. J'avais l'habitude de penser que que j'étais en quelque sorte immunisé contre la publicité. On voit toutes sortes de publicités pour telle ou telle télévision et j'y résistais. Puis ils ont sorti, je crois que c'était Hoffman, je ne m'en souviens plus, une publicité qui disait « C'est le téléviseur le plus cher, mais pour une bonne raison. » Ensuite, ils montraient pourquoi il était tellement meilleur. Ce fut mon premier téléviseur couleur. Pendant de nombreuses années, nous avions de petites télévisions noir et blanc que nous avions achetées dans des ventes de débarras. Ils m'ont eu. Ils savent que, tôt ou tard, ils vous auront. Quelqu'un le fera. Nous avons tendance à suivre ceux qui nous entourent. Nous suivons ceux que nous admirons. Comment expliquer autrement les modes culturelles modernes, telles que les tatouages? Qui aurait cru il y a 25 ans que les femmes seraient tatouées de l'épaule jusqu'à la main, sur tout le cou et je ne sais où encore? Qui aurait pu penser cela? Les seules personnes qui se faisaient tatouer avant cela étaient essentiellement des marins. Et je devrais ajouter des marins ivres, parce qu'ils devaient généralement se saouler pour se faire tatouer. C'est du moins l'image que nous avons toujours eue. Qu'en est-il de toute la quincaillerie faciale? Les piercings de la langue, les anneaux dans le nez et les sourcils, et les jeans à la mode avec des déchirures. Je regarde toujours cela et je me dis, « Oh, cette pauvre personne, il faut que je contribue à sa garde-robe. » Mais je sais qu'ils le font parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est le truc à la mode. C'est tendance de se promener avec des jeans troués délibérément. Et on paie très cher pour cela. Comment expliquer certaines coiffures, comme les mulets? Je ne savais même pas ce que c'était cette coupe avant que je voie des concours organisés chaque année. Des concours de coupe mulet. Les cheveux du garçon vont jusqu'à l'arrière et sont en quelque sorte rasés sur le côté. Je suppose que c'est la meilleure façon de le décrire. Il y a même des concours pour savoir qui a la plus belle coupe de cheveux, le champion national de cette coupe de cheveux. Et des mohawks. On n'en voit pas très souvent, mais on en voit parfois. Vous savez, j'ai eu un mohawk quand j'étais adolescent. Je pensais qu'il s'agissait d'une coupe courte ou d'une coupe plate. Mes parents m'ont dit « ça ne te va pas bien ». Mais tous mes amis avaient des cheveux plats, courts, mais plats sur le dessus. J'avais le front haut. Alors je pense que j'ai lancé la mode du mohawk. Ça n'en était pas un, mais j'en avais l'air. Ensuite, nous avons les cheveux tressés chez les hommes. Tout à coup, les hommes doivent se tresser les cheveux. Pourquoi? Qui suivent-ils? Nous avons des cheveux bleus, violets, verts et je ne sais quoi encore. Il ne s'agit pas simplement d'une couleur naturelle. De les foncer ou de les blondir. Mesdames, gardez vos cheveux gris le plus longtemps possible. COVID a fait des merveilles pour les femmes ayant des cheveux gris. Elles ont finalement décidé d'abandonner le combat. Aujourd'hui, elles ont des cheveux gris. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était une chose si elles étaient naturelles, d'une couleur relativement naturelle. C'était bien. Mais quand on commence à avoir des cheveux bleus ou verts, qui a commencé cela? Vous savez, beaucoup de ces choses remontent à l'Angleterre. Les gens ne se rendent pas compte que tant de modes partent d'Éphraïm pour arriver à Manassé. Nous pensons que c'est l'inverse. Ayant vécu en Angleterre dans les années 50, cela a été une sorte de révélation pour moi. J'ai commencé à voir les choses différemment. Ils avaient les Teddy Boys, c'était un peu le précurseur des beatniks. Enfin, pas exactement. Mais ils ont eu le look punk rock. Puis le punk rock est arrivé ici. Et tous les piercings et la quincaillerie faciale et les cheveux colorés. Et puis nous avons eu Dennis Rodman. Qui sait de quelle couleur étaient ses cheveux un jour donné? Nos jeunes ne savent peut-être pas qui était Dennis Rodman. C'était un joueur de basketball, un bon joueur de basket. Mais il devait se distinguer par des cheveux de couleurs différentes. Aujourd'hui, nous avons ce que l'on appelle des influenceurs sur TikTok et d'autres plateformes de médias sociaux. Il s'agit d'individus qui acquièrent des adeptes ou des abonnés. En fait, il existe même des cours sur la façon de devenir un influenceur, ce qui signifie en fait un vendeur. Au début, j'ai dit que mon but était de vous inciter à réfléchir aux raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. Si vous êtes en décalage par rapport à ce que vous voyez être la norme dans l'Église, vous devez vous poser les questions suivantes. Pourquoi suis-je en décalage? Pourquoi est-ce que je fais les choses différemment? Pourquoi est-ce que je m'habille moins modestement que les autres femmes de l'Église? Qui est-ce que j'imite? Les influenceurs des médias sociaux? Les vedettes du sport? Les célébrités? Les balado-diffuseurs? Ou les amis mondains? Certains se considèrent comme des créateurs de tendances ou des esprits libres. Je ne vous demanderai pas de lever la main. Y a-t-il des esprits libres ici? Y a-t-il des créateurs de tendances? J'en connais quelques-uns. Elle ne change jamais de cravate. Elle devient large, elle devient fine. Vous savez, ce genre de choses. Et donc, si elle est dépassée de 20 ans, vous devenez un créateur de tendances. Mais certaines personnes veulent changer la culture de l'Église. C'est pourquoi je pose la question. Est-ce votre rôle de changer la culture de l'Église? Êtes-vous vraiment un créateur de tendances ou suivez-vous simplement la dernière mode du monde? J'aimerais raconter une histoire. Une histoire vraie. Lorsque j'ai quitté l'Église universelle, j'essayais de savoir où aller. Je savais que je ne voulais pas fonder ma propre Église, c'était certain. Et j'ai dit aux gens de Kansas City que je n'allais pas fonder ma propre église. J'allais voir où se trouvait l'œuvre et c'est là que j'irais. Lorsque j'ai regardé M. Meredith, j'ai parlé à l'un des hommes les plus en vue de l'époque. Je lui ai posé une question étrange. J'en parle parce que, vraiment, quand on y réfléchit, c'était une question très étrange. Je lui ai demandé ce qu'il pensait du port de boucles d'oreilles par les hommes. Mon interlocuteur m'a répondu, « Nous venons de tenir une conférence avec M. Meredith, et il en a parlé. Il a dit qu'il n'aimait pas que les hommes portent des boucles d'oreilles, mais il a des fils, et ils vivent dans un monde très différent de celui dans lequel il a grandi. Il m'a dit, « Nous allons devoir nous pencher sur la question. » J'ai posé la question à un autre, et j'ai obtenu exactement la même réponse. La raison pour laquelle j'ai posé cette question était que je voulais savoir si M. Meredith prendrait des décisions basées sur les Écritures ou simplement sur son opinion personnelle. J'étais loin de me douter que cette question reviendrait quelques années plus tard, une décennie ou presque plus tard. Ce n'était peut-être pas une décennie entière, mais c'était probablement près d'une décennie. Vous voyez, à Greenville, en Caroline du Sud, où j'ai été pasteur pendant un certain temps, et aussi à Asheville, en Caroline du Nord, j'ai déclaré qu'un jour viendrait où les hommes portant des boucles d'oreilles ne seraient plus un problème pour l'Église, et que tant de gens le feraient que ce serait tout simplement la norme. Du point de vue des Écritures, nous lisons que les enfants d'Israël, les hommes, portaient des boucles d'oreilles. Vous pouvez consulter Exode 32, verset 2. « Enlevez les boucles d'oreilles et jetez-les pour que nous en fassions un veau. » Mais j'ai aussi dit, comme M. Armstrong l'a toujours souligné, « Nous ne voulons pas être des précurseurs. Nous ne voulons pas être à l'avant-garde. Nous ne voulons pas non plus être obligés de porter des vêtements datant d'il y a 3 siècles. » Quelques années plus tard, au sein du Conseil des Anciens, la discussion est revenue sur le tapis. M. Meredith a soulevé la question, et j'ai dit que nous ne devrions pas aller dans cette direction. Alors, il s'est montré assez déterminé et voulait connaître la raison d'un point de vue biblique. L'une des raisons que j'ai évoquées est que j'avais lu un livre intitulé « The Marketing of Evil, la commercialisation du mal ». J'aimerais en lire un peu ici, car cela m'a ouvert les yeux. Il s'agit d'un livre plus ancien, et le monde a changé avec les médias sociaux et d'autres choses de ce genre. Mais les principes sont toujours les mêmes. Il est question des marchands de tendance. et de la manière dont 5 grandes entreprises internationales contrôlent environ 90% de la culture des jeunes. Disney est l'une d'entre elles, avec AOL, Time Warner, Viacom et News Corp. Ce qu'ils font, c'est d'examiner les dernières tendances. Ils vont dans les quartiers défavorisés, chez les membres de gangs et tous ceux qui s'ensuivent, et ils cherchent ce qui est tendance. Ensuite, ils les publient dans leurs magazines, à la télévision, sur toutes les plateformes dont ils disposent à ce moment-là. Et comme il est dit ici, tout ce qui est diffusé sur MTV est une publicité. Tout est un publi-reportage. Il n'y a pas de partie non commerciale sur MTV. Ils ne disent pas « achetez ceci ». Au lieu de cela, tous ceux qu'ils montrent l'ont déjà. S'il s'agit d'un tatouage, tout le monde en a un. Si c'est une nouvelle coiffure, tout le monde a une nouvelle coiffure. S'il s'agit des cheveux violets, verts, rouges ou jaunes, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais toutes les couleurs sont représentées. Ils vendent une image. Ils essaient d'exploiter nos jeunes. J'espère que nos jeunes y réfléchiront. Voulez-vous vraiment qu'un vieux dirigeant, quelqu'un d'aussi vieux que vos parents ou même plus âgé, essaie de vous dire ou d'influencer la façon dont vous devez mener votre vie? Ou voulez-vous que maman et papa, qui vous aiment plus que personne d'autre au monde, et certainement plus que ces patrons bien payés de Wall Street ou de Main Street ou ailleurs? Qu'est-ce qui est le plus important? Le problème, c'est que les marchands de tendance ne vendent pas seulement aux jeunes. Ils vendent aussi un produit à ceux d'entre nous qui sont plus âgés. À l'époque, j'étais donc un peu en désaccord avec M. Meredith et nous en avons discuté. J'ai fait remarquer qu'il ne s'agissait pas seulement de savoir si quelque chose était acceptable selon la Bible. Il s'agit de l'influence et de la motivation qui se cachent derrière. Heureusement, le port de boucles d'oreilles par les hommes a pratiquement disparu comme l'oiseau kiwi. Mais il y a d'autres coutumes qui apparaissent de temps en temps. Si nous considérons une coutume indépendamment de sa motivation, de son influence et de sa manipulation, nous pouvons justifier beaucoup de choses dans notre monde, surtout si nous les trouvons dans la Bible. Beaucoup de ces choses peuvent sembler innocentes à l'époque. Mais comme dans le cas des boucles d'oreilles pour les hommes, certains se référeront à la Bible et diront « Dieu ne les condamne pas, donc c'est correct ». Mais est-ce correct que des personnes vous manipulent et tentent de faire tomber des standards? M. Kipilian fait les commentaires suivants dans son livre. Oh, n'essayez pas de parler à vos enfants de ce jeu diabolique auquel se livrent les marchands. Cela fait partie de la vision officielle du monde des vidéos rock. Cela fait partie de la vision officielle du monde de la publicité, selon laquelle vos parents sont des salauds, les enseignants sont des intellos ou des idiots, et les figures d'autorité sont risibles. Personne ne peut vraiment comprendre les enfants, sauf les entreprises qui les commanditent. Il ajoute, qu'en est-il du piercing? Il est passé des boucles d'oreilles traditionnelles pour les femmes aux boucles d'oreilles pour les hommes, désireux d'afficher leur côté féminin, que la révolution culturelle des années 60 leur a vendu à de multiples piercings pour les hommes et les femmes dans littéralement toutes les parties du corps, la langue, le nez, le sourcil, la lèvre, la joue, le nombril. Vous ne voulez même pas penser au reste des possibilités. Il n'y a aucune limite inférieure à ce qu'ils essaient de vendre. Et pour finir, voici ce qu'il dit. Il n'y a pas de doute, l'interdit est très attirant. Et comme l'a admis la célébrité Britney Spears dans une entrevue, lorsque quelqu'un me dit de ne pas faire quelque chose, je le fais. C'est ma nature rebelle. Comment cette nature rebelle a-t-elle servi Britney Spears? Si vous l'avez suivi, pas très bien. Mais c'est une partie du problème. C'est une partie du problème. Qu'est-ce que nous suivons dans Éphésiens 2? Je le lis très souvent parce qu'il est si puissant. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, le train de ce monde. Voulons-nous suivre le train de ce monde? J'aimerais vous recommander quelques articles. Le premier est un commentaire de M. Jonathan McNair, Social Influence and God's Wisdom, l'influence sociale et la sagesse de Dieu, en anglais seulement, dans le monde de demain d'août 2022. Un autre article est celui de M. John Robinson, Est-il normal d'être normal? Un article qui fait réfléchir. Il est publié dans la revue Monde de demain de novembre-décembre 2015. J'espère que vous le consulterez. Est-il normal d'être normal? Novembre-décembre 2015. Nous entendons parler de religion rigide. De quoi s'agit-il? Les gens disent, vous savez, ceci est une religion rigide. Dieu a 10 commandements. Ils sont rigides. Dieu nous dit dans Lévitique 19 d'être saint, d'être séparé. C'est ce que cela signifie vraiment. La sainteté consiste à être séparé d'une manière très positive. Lisons au verset 27, Lévitique 19, verset 27. « Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. » Je ne suis pas sûr que nous comprenions parfaitement ce à quoi il faisait référence, mais cela avait trait à une pratique culturelle de l'époque. Il poursuit au verset 28, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. » Cela semble être une bonne mesure rigide, si on veut aller droit au but. Vous voyez, une religion rigide est une expression que Satan a créée pour soulever le débat. Si vous dites « ceci n'est pas modeste », ou si vous essayez de donner une sorte de norme, la réponse pourrait être « oh, votre religion est rigide », mais cela dépend de ce que c'est. Il peut s'agir d'une religion rigide dans un sens négatif, mais ce n'est pas nécessairement le cas. L'Église de Dieu a des traditions qui doivent être respectées. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul dit « Soyez mes imitateurs, gardez les traditions que nous avons transmises. » Il poursuit en expliquant les différentes longueurs de cheveux pour les femmes. Il est honteux pour un homme d'avoir les cheveux longs. Ce qu'il veut vraiment dire, c'est que les femmes devraient ressembler à des femmes et les hommes à des hommes. C'est le principe qu'il tire de l'Ancien Testament. Il dit aussi que si les cheveux d'une femme sont rasés ou coupés en brosse, ou si c'est rasé derrière la tête, comme une coupe masculine ou un look androgyne, c'est certainement quelque chose que le monde prône aujourd'hui. Et dans un contexte plus large, il s'agit en fait d'une question d'attitude. Dieu nous dit qu'il y a des moments où nous devons nous habiller convenablement. Il parle d'un homme qui n'avait pas d'habit de noces dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Nous n'avons pas le temps de nous y rendre. Matthieu 22, versets 1 à 14. Il y avait un mariage et l'homme arriva sans vêtement de noces. Je ne sais pas à quoi ressemblait un vêtement de noces, mais il est évident qu'il y avait quelque chose qui le distinguait d'un vêtement ordinaire de l'époque. L'homme était choqué d'être expulsé. Jérémie 17, verset 9, nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Proverbe 14, 12 montre que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous remarquons que Dieu a édicté des règles strictes concernant les vêtements que les sacrificateurs devaient porter lorsqu'ils offraient des sacrifices dans le tabernacle ou le temple. Il a même spécifié les matériaux autorisés et interdit. Comme expliqué dans Ézéchiel 44, versets 17 à 20. Dans Exode 28, versets 40 à 43, il leur dit de ne pas monter à l'autel par des marches. Cela avait un rapport avec la modestie. Ils ne voulaient pas d'un autel construit sur des marches comme le faisaient les païens. C'était une question de modestie. Jérémie écrivit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. » Jérémie 10, versets 23 et 24. « Lors du baptême, nous avons été ensevelis avec le Christ, faisant mourir le vieil homme. Comme il est dit dans Colossiens 3, versets 1 à 5, nous devons faire mourir le vieil homme. » Colossiens 3, versets 1 à 5. « Nous ne devons pas rester les mêmes. Nous devons remettre en question notre façon de faire les choses, notre façon de penser. Nous devons relever le défi d'examiner ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Nous devons être des esclaves de la justice et non des esclaves du péché. Nous allons servir quelqu'un. La question est de savoir si nous servirons Dieu ou si nous servirons ce monde. Nous sommes appelés à être saints, à être séparés du monde. Nous sommes appelés à être une lumière pour le monde. » Permettez-moi de terminer avec une analogie et un passage des Écritures. Le Christ va revenir un de ces jours, et le plus tôt sera le mieux. Et il y aura beaucoup de gens au Moyen-Orient qui s'appelleront Mohammed. Pourquoi s'appelle-t-il Mohammed? Eh bien, à cause du prophète qui portait ce nom. Maintenant, à l'aube du millénium, combien d'enfants recevront le nom Mohammed? Pensez-y. Je suppose qu'une fois qu'ils réaliseront qu'ils étaient trompés par ce faux prophète, il y a beaucoup de gens dans cette situation, mais Satan sera éliminé et l'Esprit de Dieu travaillera en eux. Ils penseront, « Vous savez, je ne sais pas si je veux vraiment donner ce nom à mon enfant. » Aujourd'hui, c'est probablement le nom le plus populaire au monde, en tout cas dans certains pays. Le nom Mohammed est-il mauvais en soi? Je ne le pense pas. Il se peut même que des membres de l'Église portent ce nom, Mohammed. Doivent-ils changer ce nom? J'espère que non. J'espère qu'ils ne le feront pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Eh bien, je ne le sais pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais la question est de savoir si le nom est mauvais en soi. Si vous regardez certains des noms que portaient les gens de l'Ancien Testament, ils étaient nommés d'après de faux dieux. Par exemple, le nom de Gédéon était associé à Baal. Les gens ne doivent pas nécessairement changer de nom. Dieu leur donnera de nouveaux noms. Mais je pense que les gens éviteront probablement le nom de Mohammed en raison de certaines mauvaises connotations qu'il y aura. Cela ne veut pas dire que tout le monde devra changer de nom au début du millénium. Le fait est que certaines choses ne sont pas mauvaises. Mais nous devons examiner les motivations derrière. Quelle est l'influence qui les sous-tend? Pourquoi sont-elles nommées de cette manière? Terminons avec 1 Corinthiens 10. Ce verset est très similaire à un autre verset de Corinthiens que nous avons lu. À une différence près, 1 Corinthiens 10, verset 23, se lit comme suit. 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mon but aujourd'hui est de vous amener à réfléchir à la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Pour faire suite au sermon mentionné, est-ce correct? Ce n'est pas la bonne question. Je vous invite à reconnaître que nous devons nous demander pourquoi nous faisons certaines choses. Plutôt que de vous donner une longue liste de choses à faire et à ne pas faire, j'essaie de vous dire qu'en tant qu'adulte, et même en tant qu'adolescent, Dieu nous a donné un esprit pour penser et raisonner. Si nous cherchons à plaire à Dieu, nous devrions trouver les bonnes réponses à beaucoup de ces questions. Il se peut que nous soyons un peu en deçà dans certains domaines, mais nous devrions chercher à plaire à Dieu en cherchant à ne pas causer d'offense au sein de l'Église de Dieu. Nous devrions porter des jugements justes.